Sarah Soul, qui est donc directeur d'études au CNRS, qui a travaillé successivement sur beaucoup de sujets qui concernent plus ou moins directement la relation de crédit des Chinois, de l'immigration chinoise et notamment du système de la culture à Paris, en passant par l'étude des relations marchandes, de la transaction marchande, de la sociologie économique. Et beaucoup aussi dans une perspective des activités marchandes dans la ville. D'ailleurs, c'est passé un numéro technologie française de 2005 qui s'appelle Négoce dans la ville, qui donc a beaucoup de terrains d'enquête qui sont, et puis des petits commerçants aussi, étrangers, qui sont autour de la relation sociale de crédit. Et il se trouve que c'est en plus un discutant hors pair. Donc je le remercie beaucoup.
Vous avez décidé de venir, vous avez besoin de discutant.
Là, il s'agit d'un exercice vraiment périlleux et un peu difficile d'essayer de faire une discussion des trois textes. Et donc je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de se prêter à ce jeu.
Un petit peu de cabreau, hein, ça fait passer des 5 siècles d'écart, et ça, on est le ravin de l'anachronisme est permanent, donc on vous a écouté, donc j'ai lu successivement les 3 textes en essayant que les questions puissent résonner entre les deux, mais vraiment avec toute entre nous, comme on dit, toute prudence, sachant que mon regard est d'être un regard de sociologue, anthropologue, hein, ça c'est une chose. Et puis que je n'ai lu bien sûr que ces textes que j'avais, que j'ai pas eu d'autres choses que vous avez fait, donc il y a aussi des choses qui vont quand même tomber un peu à côté parce que vous avez déjà fait ailleurs ou des choses comme ça. Donc voilà, on essaye. Donc avec le texte de Jules Claude, et puis je m'excuse aussi un peu de répéter peut-être certaines choses que vous avez déjà dit dans vos exposés initiaux. Donc avec Jules Claude, je me suis retrouvé devant une étude médiéviste qui prend comme objet le crédit obligé comme des biens, c'est-à-dire sur une relation de crédit dans laquelle le débiteur accède par avance au moment de la signature du contrat, sous forme de lettre obligatoire, d'être emprisonné au cas où il ne parvient pas à répondre à ses obligations, c'est-à-dire à rembourser à la dette qu'on l'a eu. Mais si la carrière civilistique est courte, moins d'une année, 1488-1489, la pratique considérée s'étend sur une période longue, 5 siècles, entre 1703 et 1867. Avec 2 tentatives d'abolition en 1793 et 1848, mais aussi elle suit une période où elle n'était pas autorisée, où elle n'était autorisée que pour les créances royales, c'est Saint-Louis. Donc cette périodisation est annoncée en introduction, et je trouve qu'elle peut être source de questions intéressantes, et d'une première série de questions que je vous pose, qui désenclave un petit peu par rapport à l'enquête elle-même. Dans quelle mesure les arguments qui ont été évoqués en 1793 et en 1848, que je ne connais pas du tout, bien sûr. Hein. En quelle mesure ces arguments permettent de mieux comprendre la mise en œuvre de cette pratique pendant plus de 5 siècles. Avec une même question pour les arguments qui ont permis son abolition en 1873. En 1793 et en 1848, la question de l'esclavage a-t-elle été évoquée? C'est un moment où on en parlait. Est-ce qu'il y a eu une relation avec l'esclavage comme pour un argument pour, disons dire, on va abolir cette pratique? Et pour revenir en amont de la période considérée, c'est-à-dire à Saint-Louis, quels étaient les arguments, si on les connaît, pour réserver cette peine aux créances royales? Alors, malgré les 5 siècles marqués par ce refus de Saint-Louis et cette abolition post-révolutionnaire en 1867, peut-on rapprocher les argumentaires qui ont interdit cette pratique? Question, hein. Ça fait peut-être trop naïf, mais bon, je pose la question. Comment pourrait-on mettre en relation les arguments développés pour interdire cette pratique en 1867, dans l'analyse du phénomène lui-même, quand il était d'actualité, entre 1703 et 1867. Voilà. Donc j'insiste un peu sur ces rhétoriques, si vous voulez, ces éventuelles, si on y a accès, évidemment, dans notre cas, sur ces éventuelles rhétoriques juridiques, parce que avec la Poste, c'est un peu l'objet central du texte de la Poste, et je voulais un petit peu comme ça essayer de voir si de votre côté, on pouvait aussi un petit peu mieux comprendre quelles ont été les rhétoriques juridiques pour à la fois interdire ou permettre successivement. Voilà. Donc ça, c'était une première chose. Alors, bien que les périodes considérées soient lointaines, est longue, 5 siècles, le cycle de l'enquête historique est court, un peu plus de 7 mois, donc 317 écrous. Bon, je ne répète pas ce que vous avez dit, là je résume un petit peu l'enquête qui a été faite. Donc la série est de 274 sur les débiteurs, elle est connue pour 98% des débiteurs, donc profession, nature de la dette, lieu de résidence des débiteurs, rythme saisonnier de la dette. Vous dessinez autour de votre texte un milieu que vous qualifiez de populaire, hein, c'est donc un crédit populaire, des laboureurs, des travailleurs de l'industrie, des petits commerçants, le menu peuple et les pauvres. Donc je laisse un peu ce résultat sociologique finalement que vous nous fournissez, qui est très, très intéressant, très informatif. Et juste une petite question qui est aussi sans doute un peu naïve et décalée, c'est la même pratique appliquée aux créances royales sous Saint-Louis. Quand c'était seulement 720, quelle population était touchée par rapport à ce que vous, après, dans le deuxième temps, vous parlez de crédit populaire. Voilà. Alors après, j'avais fait toute une série de questions que je vous ai déjà posées pour mieux comprendre la pratique elle-même. Enfin, on a déjà un petit peu éclairé ça. Et j'arrive directement à mon deuxième, disons, le premier volet de questions, c'était sur les rhétoriques, hein, avant et après, interdiction, abolition, de nouveau. Et puis la deuxième série de questions porte plus sur votre conclusion, ce que vous nous proposez. Alors, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur les enjeux que semble recouvrir pour vous, dans les dernières lignes de votre texte, le fait d'établir une relation entre l'emprunt cordélien et la relation de servage, la relation de, comment vous dites, relation servile. Donc, il semble qu'il y a un enjeu, mais que vous n'allez peut-être pas, on comprend pas bien pourquoi, si vous voulez, pour vous, cela semble important d'établir cette relation. Alors, comme vous le dites, une relation de servage, c'est ce qui aurait été vidé de son contenu, dans la mesure où le consentement préalable du débiteur, codifié dans le cadre d'un contrat écrit, a été établi. Donc, vous visez, vous faites un rapprochement avec la relation de servage, mais vous dites en même temps que c'est pas comme la relation de servage parce que ça a été vidé de son contenu, parce qu'il y a eu un consentement du débiteur préalable. Bon, d'accord. Il y aurait une coupure fondamentale avec la relation de servilité qui, lui, ne sert ne décide de rien du tout, je crois. Donc, pour justifier cette filiation, vous dites pas filiation, vous n'utilisez pas ce mot, vous préférez le mot imitation. Hein, vous dites qu'il y a eu comme une imitation de la relation de servilité. Vous dites aussi, juste après, emprunt de ces catégories conceptuelles. Vous dites c'est imitation et emprunt de ces catégories conceptuelles. S'agit-il dans votre esprit d'une imitation de la forme prise par la dépendance, dans la mesure où la privation de liberté du corps pourrait être associée, si j'ai bien compris, à la cotation des corps que le servage impliquait. Et vous dites que cette imitation, ou cet emprunt conceptuel, aurait pour fonction de fixer dans l'écrit contractuel la dépendance. Fixer dans l'écrit contractuel la dépendance. Alors, ma question peut paraître naïve, mais pourquoi y aurait-il un tel enjeu à fixer dans l'écrit la dépendance que représente cette forme de crédit? Au-delà, bien sûr, de la pression que cela pouvait représenter pour le débiteur, qui, on peut l'imaginer, devait tout faire pour éviter de se retrouver dans la geôle royale. Donc voilà. Alors, je ne suis pas du tout au courant des débats antihistoriens, et toujours pour nourrir ce questionnement, est-ce que dans la littérature, dans le champ des recherches historiques, existe-t-il d'autres interprétations? Est-ce que ça correspond à un débat que je ne connais pas? Enfin, vous voyez, tout ça, c'est un petit peu pour aller plus loin sur l'explication que vous donnez de la permanence de cette pratique qui a quand même duré 5 siècles, au-delà de l'argument rationaliste qui est d'avoir de meilleures garanties pour le créancier. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, voilà. C'est ça, en fait, ma question.
Comment m'a déroulé le jeu?
Je ne sais pas. je sais pas si tu as fait une discussion générale.
Peut-être gardez-le. Ouais. Hein, je crois que c'est surtout dans la dernière formulation qui est thématique, hein, qui est arrivé. Alors avec le deuxième texte, sur la poste de Nadège Vézina, nous sommes face à une étude qui se donne pour titre d'investigation une institution. C'est aussi pour essayer de faire ça aussi pour voir les différentes, finalement, approches possibles du crédit. Hein. Donc nous sommes face à une étude qui se donne pour titre d'investigation une institution publique, la poste, plus particulièrement les services financiers, le segment de temps investi est de 1953 à 2008, soit une petite cinquantaine d'années. avec une question clé. Pourquoi le crédit immobilier est-il le seul dont dispose la Poste? Mais à mon avis, c'est comme moi, dernièrement, je l'ai lu, hein, bien sûr, mais tout ça. C'est tout autant le comment que le pourquoi qui est traité. Enfin, comment? C'est plutôt comment est justifié le fait que le crédit immobilier, sans épargne préalable, est-il le seul proposé par la Poste? Je trouve que c'est plutôt ça qui est traité dans le texte. Hein. C'est en tout cas comme ça que j'ai lu la question des rhétoriques justificatives, avec ce qu'elles induisent, bien sûr, comme conception du crédit, conception assez volatile, on va le voir, me semble être au centre de votre papier, comme ça que j'ai reçu. Il s'agit avant tout de décrire un processus long de décision, qui n'est d'ailleurs pas encore totalement achevé. Le processus est avant tout un processus institutionnel, ou plus exactement interinstitutionnel. L'approche relève donc de l'histoire institutionnelle ou interinstitutionnelle, celle de la Poste, mais aussi des institutions dans la Poste dépend. Il s'agit en l'occurrence du ministère des PPP et du ministère de l'économie, et plus particulièrement du Trésor, qui est une institution dans l'institution. Mais aussi, de façon plus adjacente, divers organismes de réflexion, de prospective, conseil économique et social, etc., qui relèvent à des degrés divers de la technostructure étatique, chargés de faire de la prospective, mais aussi, d'ajuster les prospectives aux rhétoriques et doctrines officielles. Cette question de l'adéquation des réformes aux doctrines m'est apparue très très forte dans votre texte, comme un espèce de souci permanent. Il y a à la fois la formulation pratique et tout de suite l'organisme, le discours d'institution se dit mais comment on va ajuster ça à des doctrines sous-jacentes officielles. C'est comme un... Donc ici les cartes méthodologiques les plus convenues sont un peu brouillées, puisque les acteurs ne sont pas des individus, comme les acteurs, comme les débiteurs mis sous écrou dans la geôle du Châtelet, mais ici, la question du crédit est saisie à travers des acteurs institutionnels. Hein. C'est un petit peu c'est amusant, parce que c'est un petit peu la démarche historique qui adopte un questionnement plus sociologique et vous qui adoptez un questionnement, disons, plus histoire des institutions. Bon, et ici, ce ne sont donc pas les caractéristiques sociologiques des acteurs qui sont mis en avant pour produire le récit de cette mutation inachevée. Ce sont des discours collectés dans la littérature grise ou officielle, c'est votre matière, que ces institutions produisent abondamment, il faut le dire, et à travers lesquelles ces institutions existent dans le champ des institutions étatiques. Donc on sent d'ailleurs à quel point il est un champ de force, de logique, d'influence, vous l'avez dit, très loin d'un état monolithique et unifié. Ça paraît très bien. Alors la manière centrale, le cœur de ce papier repose donc sur ce que j'ai lu comme des rhétoriques justificatives, rhétoriques techno-économiques, rhétoriques techno-sociales, techno-politiques, qui s'enchevêtrent et se répondent. Cela m'a fait un peu penser, quand j'ai dit, à une sorte de joute oratoire interinstitutionnelle, avec au centre le duel entre le Trésor et le ministère des PPP, un duel entre le noble Trésor, au sommet incontesté de la hiérarchie institutionnelle, et le modeste ministère des PPP. Alors, une question remarque à ce niveau. Quand on sait déjà contrasté ces deux institutions dans l'appareil étatique, hein, en particulier le rôle du Trésor, est-ce que les formations, les trajectoires sociales, les trajectoires universitaires, les trajectoires politiques de ces fonctionnaires peuvent être invoquées pour mieux comprendre les enjeux que ce débat sur l'introduction du crédit à la Poste a représenté? Avec derrière la question de savoir pourquoi les gens les plus haut placés dans la hiérarchie scolaire et institutionnelle, ce qui est sans conteste le cas des gens du Trésor, se sont trouvés les défenseurs les plus ardents d'une conception défensive du service public. Est-ce un paradoxe sociologique ou, je ne suis pas naïf, ou peut-on aller au-delà ou derrière ce paradoxe? Chose qui n'apparaît pas dans le papier, mais c'est, vous voyez, où les institutions sont un petit peu désociologisées, alors qu'on sait, par contre, c'est une nature des choses, que le Trésor et les PTC, c'est quand même des trajectoires extrêmement contractées fonctionnaires qui aboutissent dans ces deux endroits. Voilà, donc c'est juste une question à ce niveau. Alors, comme souvent, le deuxième point pour ce texte, c'est quand on choisit de mettre en relation une question synchronique, pourquoi la Poste ne dispose aujourd'hui que du crédit immobilier, avec quelques éléments d'histoire institutionnelle, on s'aperçoit, et c'est un des points qui est très important de notre recherche, on s'aperçoit que la question n'est pas si contemporaine et trouve ses racines ou ses prémices bien avant. j'ai trouvé que c'était un des points forts à ce niveau. La recontextualisation historique de moyenne durée, 500 ans, est très heuristique car elle nous permet de nous rendre compte que cette tension autour du crédit, en cette tension entre la relation entre le public et le marché, quoi, n'est pas récente. Elle n'est pas aussi récente qu'on le dit. Elle ne date pas du mur de Berlin, du libéralisme, tout ça. Même si le débat se conclut très récemment, avec les directives européennes, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a là quelque chose d'intéressant que j'ai un peu de mal à formuler, si vous voulez. Je voudrais juste vous en donner une intuition, quoi.